Une production de la boîte de prod.ca.
C'est quoi un CELI, un compte de courtage et des FNB? Comment investir mon argent en bourse sans risque? C'est possible atteindre la liberté financière?
Découvrez l'essentiel de l'investissement passif en bourse grâce au balado
Intérêt composé.
Voici Gabriel Jasmin.
Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode d'Intérêt composé, un balado qui s'intéresse à l'investissement passif en bourse au travers de fonds négociés en bourse, entre autres, dans le but assumé d'atteindre l'indépendance financière. Je m'appelle Gabriel Jasmin. J'ai le bonheur de m'entretenir cette semaine avec un homme qui partage deux passions que j'ai. D'abord, l'animation radio. Il a été animateur radio, lui, dans les années 80, entre autres, à Montréal. C'est lui qui chaussait les souliers de Paul Arcand avant son arrivée à l'émission du matin au 98. 85 FM. Il est également grand passionné de finances, vous l'aurez compris puis vous le comprendrez au fil de l'épisode parce que non seulement on peut l'entendre dans les médias régulièrement commenter l'actualité économique au travers son bagage évidemment dans les médias, mais il est planificateur financier depuis plus de 20 ans, il gère sa propre équipe chez Assante, équipe majeure, conseiller en gestion de patrimoine, gestion de capital entre autres. Fabien Major, bienvenue.
Ça me fait plaisir, Gabriel.
Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Fabien, je l'ai mentionné, on t'entend souvent commenter l'actualité financière au travers des médias, mais ta passion pour les finances t'a amené à écrire plusieurs ouvrages sur la question. J'ai en tête, entre autres, « Petit secret et grand mensonge de votre banquier ». Peux-tu, en quelques lignes, là, simplement, Fabien, pour mettre la table à ce balado, nous expliquer les grandes lignes là, de cet ouvrage-là?
OK. Simplement que le banquier, il est en affaires. Il est là pour faire d'argent et tous les services qu'il vous rend, c'est toujours en ayant derrière la tête de faire quelconque profitabilité. Et n'allez pas à la banque en cherchant la charité ou en pensant que c'est un organisme à but non lucratif. Non, il ne cherche qu'à faire d'argent et c'est de la vente qui s'apparente des fois à de la vente de grande surface où les employés sont là pour nous vendre quelque chose qui est dirigé, qui vise la profitabilité des banques. Alors moi, je dis aux gens, soyez méfiants et puis apprenez-en un petit peu sur la mécanique des banques et il va vous en rester plus dans vos poches.
J'ai envie qu'on parle, évidemment, l'objectif de ce balado-là, c'est de se concentrer sur l'investissement financier en bourse au travers de FNB indiciel. Mais avant de saisir tout ce qui est fonds négociés en bourse et comptes de courtage et tout ça, il faut commencer par l'essentiel puis saisir ce que c'est correctement un CELI, un REER, un compte non enregistré et tous les types de pochettes de placement disponibles. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces véhicules d'investissement-là?
Bien, ils sont très nombreux, mais il faut justement les comprendre. Et puis, si on prend le REER, c'est plus pour la retraite et s'acheter une maison. Le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, celui-là, j'en ai consacré un livre. C'est sans doute le canif suisse de tous les types de comptes parce qu'il peut servir à plein de choses. Et son utilité, qui est la plus courante, mais celle qui est la moins recommandable, c'est de l'utiliser comme un compte courant. Beaucoup de gens vont accumuler des sommes avec très, très peu d'intérêt en disant que c'est mon compte pour accumuler, par exemple, les taxes ou pour ramasser de l'argent pour un voyage dans 6 mois. Non, c'est pas la bonne utilité puisque comme il est libre d'impôts, il faut faire des gains intéressants pour sauver quoi que ce soit là. Alors, le REER, le CELI, mais il y a des comptes des fois qui sont un peu différents. Je pense par exemple au RPDB. Celui-là, c'est la participation aux bénéfices des entreprises. On peut l'avoir seulement si notre employeur l'établit. Il y a bien sûr les comptes de retraite qu'on peut avoir avec son employeur, fonds de pension, etc. là, mais grosso modo, CELI, REER, c'est les principaux. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, vous avez le compte de placement, tout simplement, qui, lui, est un compte de courtage dont les intérêts, les gains sont imposables.
Lorsqu'on se lance, Fabien, dans la gestion personnelle autonome du portefeuille d'investissement en tant que particulier, on veut, justement, une fois qu'on a saisi le CELI, le REER, ce que c'est le compte d'investissement, qu'on désire soit acheter des actions, des obligations, peu importe, justement, il faut les comprendre, ces concepts-là. Qu'est-ce que c'est d'abord une action, puis ensuite une obligation? Qu'est-ce qui les distingue?
D'abord, une action. Action et obligation, je trouve que c'est le parallèle intéressant, c'est entre être locataire et être propriétaire.
Ah, j'aime ça.
On peut louer son argent et obtenir un petit intérêt, surtout quand l'obligation est émise par un gouvernement ou par une entité qui est très solide, comme Hydro-Québec, par exemple. Alors, plus l'entité est solide, plus le taux d'intérêt qu'on va recevoir sera faible. C'est pour ça que quand on achète des placements à Épargne Placement Québec, le taux d'intérêt est excessivement faible. On est peut-être 1% parce que l'argent est en grande sécurité, ne va pas avoir de volatilité et on va retrouver tout son capital très vite. Quand on est propriétaire, ah ben là, il se fait de la magie. C'est comme quand on est propriétaire d'un immeuble, comme propriétaire d'une maison. On peut avoir des locataires, on peut donc avoir des revenus. Ça, c'est les dividendes que les actions peuvent procurer. Et puis, au fil du temps, l'action de l'entreprise peut prendre de la valeur et ça s'additionne aux dividendes, ce qui fait qu'on s'enrichit à ce moment-là. Mais à long terme, c'est évident qu'être actionnaire est beaucoup plus payant que si on détient des obligations dans le portefeuille. C'est la grande distinction entre les deux, le yin et le yang.
Évidemment, oui. Puis justement, c'est un parallèle intéressant parce que Nicolas Bérubé, à qui je me suis entretenu de la presse, entre autres, qui vient de sortir un livre sur l'investissement boursier sans souffrir, ben justement, nous parler de ça, cet effet de yin, de yang, de balance là, monétaire qui existe entre la relation entre l'action et l'obligation et tout ça. Et une fois qu'on veut investir dans un portefeuille équilibré, d'abord, peut-être définir ce que c'est un portefeuille bien équilibré, selon toi, Fabien Major?
Eh bien, d'abord, il faut comprendre que les conseillers planificateurs comme moi, on ne peut pas offrir n'importe quoi aux gens. On est tenu de protéger le capital des gens, des fois un peu contre leur gré. Les gens ont tendance à vouloir essayer des patentes et des fois, s'ils ont besoin d'argent dans 6 mois, ça marche pas. Vous trouverez pas un conseiller qui va vouloir s'occuper de vous. Et les règles maintenant sont bien changées quant à la rémunération. Les conseillers d'ordinaire vont prendre des clients avec des sommes beaucoup plus
faramineuses, là.
Ouais. C'est pour ça que de nombreux investisseurs qui débutent vont utiliser soit les robots conseillers, soit encore les FNB ou fonds communs. Mais le portefeuille équilibré, c'est le plus courant. C'est celui qui convient, je pense, à plus de gens possible puisque il y a un équilibre entre les actions et l'obligation. D'ordinaire, on va dire que c'est 60-40. 60% en actions, 40% en obligation, ça devient équilibré. Quelqu'un va dire, ben, il me semble qu'équilibré, c'est 50-50. Il faut comprendre que si on a une partie d'actions qui verse des dividendes, c'est des revenus fixes, ce sont des titres qui sont un peu plus stables. Alors, le portefeuille équilibré, lui, va convenir à un investisseur qui est capable de prendre une certaine forme de volatilité, mais il ne veut pas de perte permanente. Puis il y a quelque chose, Gabriel, je crois qu'on rend service aux gens, à ceux qui écoutent ton podcast, c'est de dire que tu as toujours deux différences. Tu as des placements qui peuvent engendrer des pertes permanentes qu'on ne retrouvera jamais. Tu places 10 000 dans quelque chose, ça se peut que ça tombe à zéro. Il y a même des placements qui sont pires que ça, comme les options. Il est possible d'avoir même une dette. Hey. C'est qu'on a misé 10 000 puis on se retrouve avec une dette de 20 000. Alors, il y a des types de placements qui sont quand même très hasardeux, là. Il faut savoir ce qu'on fait, je pense, avant de se lancer. Mais le portefeuille passe-partout, c'est définitivement le portefeuille équilibré. Quand on a quelque chose de diversifié en FNB, en fonds, on se retrouve à ce moment-là avec un risque de repli temporaire. On perdra pas son argent, on va la récupérer, ça va remonter. Mais si vous êtes dans des catégories comme cannabis, mine junior, crypto, NFT, ça, c'est des catégories d'investissement avec il n'y a rien sous-jacent qui peut apporter des revenus comme tel. Alors, ça va tout simplement avec le hype. Et puis, quand le hype se termine, des fois, on se retrouve à zéro.
Ce dont on a beaucoup jasé dans les deux premiers épisodes, non seulement avec Nicolas Bérubé, mais avec Jean-Sébastien Pilote, quelqu'un qui a pris sa retraite avant l'âge de 40 ans, en investissant dans des FNB, on a beaucoup fait l'apologie des fameux fonds négociés en bourse tout en un. Les fonds à répartition d'actifs, finalement. Il y en a qui sont proposés par Vanguard, par BlackRock, par BMO, peu importe. Il y en a de tout type. Peut-être pour bien comprendre la mécanique et le taux de diversification de ces portefeuilles-là, de ces FNB tout en un-là, peut-être nous dévoiler, Fabien, la nature de où on investit notre argent quand on achète un fonds négocié en bourse tout en un.
Le tout en un, il y a de la gestion active là-dedans. Faut comprendre, tu as par exemple une équipe d'analystes, dont Fred Demers chez BMO, que je connais bien. Fred, il est le stratège principal qui décide quel FNB va se retrouver dans le portefeuille de répartition d'actifs et va donc l'ajuster selon le contexte économique et ça donne le résultat. Il y a souvent 10-12 FNB dans le même portefeuille et ce sont donc des humains qui vont choisir si on met 6-7-8% l'exposition dans ce FNB multi-actif. Mais aujourd'hui, c'est très courant. On retrouve ça avec Manuvie, BMO, LCI, First Asset, Vanguard, t'as nommé compagnie, puis iShare aussi, la famille BlackRock.
Alors, quand on investit dans ces fonds qui sont des multi-FNB, on se retrouve un peu actionnaire, propriétaire de 12 000 entreprises et plus. Là, t'sais, notre argent va vraiment un peu partout, que ce soit dans les actions, dans les obligations. Concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que cet argent-là va venir financer des projets, des entreprises dans lesquelles on investit, ou va notre argent quand on investit dans un FNB?
Non, ça ne financera pas de projet, pas du tout, parce que les actions qu'on achète en bourse directement ou via un FNB, on appelle ça le marché secondaire. Les actions ont déjà été financées à l'origine, et lorsqu'une entreprise entre en bourse, par exemple, si on prend Airbnb, elle avait déjà distribué tout son capital, il y avait des actionnaires, mais le fait d'être public, il se fait des échanges à chaque seconde, et quelqu'un peut donc vendre et acheter des actions d'Airbnb. Avec les fonds négociés en bourse, c'est un peu la même chose. C'est donc la valeur qui va varier, mais on ne collabore pas du tout, on n'ajoute pas de l'argent pour que la compagnie ouvre de nouveaux bureaux ou de nouvelles usines. C'est pas ça. Mais quand même, ça maintient l'activité économique et des fois, on a des versements de dividendes. Ouais. Avec les portefeuilles de FNB, on est quand même limité. Il existe dans le monde plus de 650 000 sociétés dont on peut acheter des actions. 650 000
et les FNB. Ça en fait pas mal.
Oui, ça en fait pas mal. En général, les FNB vont se concentrer sur les 3 000 mêmes titres.
Et dans un FNB, évidemment, là, il y en a de tout acabit. On a parlé des tout en un. Il y en a qui sont plus sectoriels, basés sur la technologie, basés sur, par exemple, tout ce qui est énergie. Oui, il peut y avoir des pétrolières là-dedans. Et il y en a un type de FNB qui revient, qui fait beaucoup jaser depuis plus récemment, là, les fameux FNB ESG, ces fonds environnementaux. Moi, j'ai une question par rapport au rendement de ces fonds-là, bien qu'ils soient plus populaires, ben, de plus en plus populaires, là. Et puis, je pense que tu peux le constater même au travers de ta profession. Est-ce qu'on affiche des rendements qui sont comparables, voire supérieurs à des fonds normaux, des FNB plus conventionnels?
Oui, ils sont un peu supérieurs, je dirais, de 0,3, 0,4 % à très long terme. Okay. Le rendement est supérieur. Il faut comprendre que si tu exclus des fois des pétrolières ou des sociétés très polluantes, ben le risque boursier, il est aussi plus élevé envers ces compagnies-là. Et dans les dernières années, les technologies qui ne sont pas des compagnies trop polluantes, en fait, certaines peuvent l'être par leur consommation d'électricité, ouais. Mais en général, elles sont moins polluantes et plus accessibles aux normes ESG, environnement, social, responsabilité et saine gouvernance. Mais définitivement, ESG, c'est sûr, c'est très, très, très intéressant, mais des fois, il y a plus que ça. Il y a des valeurs, par exemple, ne pas investir dans des compagnies qui font des munitions, qui font des armes à feu ou qui font de l'équipement militaire, ouais. Dans les casinos, dans le tabac, les cigarettes et autres, là.
Ben, c'est excessivement bon à savoir et d'y réfléchir plus sérieusement. Fabien Majard, j'ai envie de t'amener complètement dans un autre ordre d'idées et te suggérer de nous jaser un peu de comptes de courtage sur Dysnat, sur RBC Direct, sur Wealthsimple, par exemple. Quand vient le moment d'acheter soit une action, une obligation, un produit financier, souvent on nous pose la question cours limite, cours marché. Là, juste pour peut-être démystifier ce que c'est précisément pour les gens qui écoutent la balado, qui veulent se lancer de façon purement autonome, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre le cours limite, le cours du marché?
Le cours limite, c'est que tu as toujours un écart entre une action. Une action, tu as l'offre et la demande.
Ouais.
Comme n'importe quel produit. Si quelqu'un veut acheter une maison, il est conscient de ça. Si, par exemple, la maison est affichée à 300 000 $ et puis il y a tellement de gens qui la veulent, c'est possible que le prix final soit à 340.
Il y en a plusieurs qui l'ont vécu l'année dernière puis dans les derniers mois, là, j'ai l'impression, ça, là, ce phénomène-là.
Il y a des écarts comme ça, mais définitivement, les investisseurs qui veulent être tentés par l'investissement autonome devraient peut-être suivre quelques cours en ligne. On peut aller sur csi.ca et suivre les cours de valeur mobilière. Ça peut vous prendre 6 mois, 1 an à réaliser. Mais le minimum, c'est suivre le cours des fonds d'investissement qui comprend aussi les FNB. Quand vous connaissez bien cet environnement-là, vous vous lancez parce que définitivement, il y en a qui vont regarder que le rendement à court terme. Ça explique qu'il y a énormément de nouveaux investisseurs sur ces plateformes-là, mais quand on regarde le rendement, c'est plutôt désastreux. Les données là-dessus, en 20 ans de rendement, l'investisseur moyen a réalisé 2,9 % de rendement moyen par année. C'est les données qui sont toutes récentes au 31 décembre. Et est-ce que c'est quoi la raison principale?
Ouais.
C'est tout simplement que les gens achètent au mauvais moment. Ils vont acheter quand tout le monde achète, c'est-à-dire poursuivre une mode, et ouais. vont vendre quand les autres vendent, comme en janvier 2022.
Dans un creux de vague, là.
Dans un creux de vague, effectivement. Mais pourtant, depuis 20 ans, jamais les frais financiers n'ont été aussi bas. Alors, ce n'est pas ce qui explique le rendement des investisseurs. Il y a quand même des composantes qui influencent le plus le rendement. Tes auditeurs devraient comprendre, c'est le comportement. Le comportement lui-même de l'investisseur, c'est au premier rang. Il explique d'abord son résultat. S'il vend et achète dans des mauvais moments, ça explique. La répartition, évidemment, si on prend des solutions tout en un, comme on a parlé, ça, c'est très intéressant parce que ça explique une grosse partie du rendement. Les impôts, bien sûr, puis en quatrième ligne, tu as les frais financiers qui vont impliquer. Mais évidemment, un investisseur qui achète au pire moment va influencer négativement ses rendements.
Fait que pour résumer, finalement, le point qu'on vient d'aborder, c'est si on se concentre sur un FNB tout en un et qu'on achète le FNB sans modifier quoi que ce soit de la composante du FNB sans vendre et acheter autre chose par la suite, puis qu'on laisse la magie opérer des intérêts composés, ben au bout du compte, on peut pas être perdant.
Non, c'est ça. C'est que si vous achetez et vous conservez, vous allez faire de l'argent. Mais c'est quand on intervient, plus on intervient dans un portefeuille avec des gros changements régulièrement, plus on a de chances de se tromper. Les portefeuilles pour les familles bien nanties, ils ne bougent pas beaucoup. Très souvent, ouais. Ils sont avec plein de catégories, ils ne bougent pas beaucoup et ils font de l'argent de manière régulière. C'est ce que tout le monde souhaite, c'est qu'on ne vive pas des gros crashs, des grosses corrections et puis qu'on ait des rendements qui dépassent l'inflation à chaque année.
On a parlé tantôt brièvement des statistiques des experts en portefeuille versus les investisseurs autonomes. Avec Nicolas Bérubé, on a abordé quelque chose d'intéressant qui comparait la moyenne, justement, un peu comme tu l'as précisé, là, des gens qui achètent leurs actions, qui boursicotent versus les experts en placement. Et on a constaté que les experts, ben souvent, quand on leur demande de battre, par exemple, un indice, genre le S&P 500 qui recense les 500 plus grandes entreprises américaines, ben ils avaient de la difficulté à le faire sur le long terme. Ils sont capables de battre le rendement annuel 2, 3, 4, 5 ans, mais après ça, c'est plus difficile sur le long terme. Qu'est-ce que, d'après toi, qui vient expliquer ce phénomène-là? Pourquoi même les experts en finance qui passent leur journée à lire des graphiques un peu complexes ont de la difficulté à évaluer?
Ben en fait, c'est tout simplement que cette comparaison-là, ce n'est pas la demande du marché. Si je dois administrer des sommes pour une famille, ben l'objectif, ce n'est pas de battre le marché. Quand le marché fait moins 14, comme en janvier 2022, puis j'arrive avec un moins 13, ils vont pas me dire c'est formidable. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas perdre d'argent. Ouais. Et si le marché fait 30 et puis qu'on en fait 15, l'important, c'est de cibler exactement avec une analyse exhaustive de la famille des besoins. Si par exemple, quelqu'un pour réaliser son projet, on fait la planification financière qui comprend la succession, les impôts de société, le régime épargne-études, les hypothèques, tout ce qui est comptabilité de caisse, le budget familial, puis on met tout ça ensemble, puis une famille veut savoir c'est quoi j'ai besoin comme rendement pour m'enrichir puis prendre ma retraite à 55 ans. L'objectif, c'est probablement pas de dire je veux battre l'indice. L'objectif, c'est de dire je veux faire 6 % par année, je veux faire 4,5 et de cette façon-là, on va s'enrichir sans avoir de risque de perte permanente. Mais quand des experts vont travailler, évidemment, la première des choses, c'est d'y aller avec les connaissances des investisseurs et leurs objectifs personnels et familial. Les indices de marché vont avoir une forte concentration qu'un expert ne peut, dans certaines circonstances, ne même pas avoir le droit de faire. Si je regarde l'indice SP500 l'année dernière, ouais. Il y avait 27 % de technologie de l'information, alors que très souvent, quelqu'un qui constitue un portefeuille, il doit se limiter à 10 % dans un secteur. Oh. Alors, quand un indice est débalancé, il se produit à ce moment-là une augmentation sensible du risque. Ça ne sert absolument à rien de faire, je ne sais pas, 35-40 % de rendement si on est pour faire moins 60 l'année passée. Mais Gabriel, c'est intéressant ce que tu racontes, la comparaison entre les experts et les indiciels, parce que 100 % des fonds indiciels ne battent pas les indices. 100 %.
C'est vrai, c'est vrai.
On suit
le marché, mais on essaie tant bien que mal de le répliquer, mais ça demeure quand même des humains ou en tout cas des robots conseillers qui essaient d'atteindre l'indice sans toutefois le réaliser à 100 %.
Non, c'est ça. Ils ne le réalisent pas jamais. Mais cet objectif-là, pour moi, c'est comme un vieux film qui revient à l'affiche. J'ai commencé à la fin des années 90 dans le domaine. Je ne faisais que des portefeuilles indiciels. 100% de mes portefeuilles étaient indiciels. Mais est arrivée la crise de 2000 où on a eu 3 années de suite où les marchés tombaient. Et si on dit à quelqu'un, « Hey, c'est super, tu fais mieux que le marché. » Moins 23, moins 18, moins 16, une année après l'autre. Alors, Gabriel, je vais te faire un petit témoignage. À ce moment-là, oui. J'avais pas beaucoup d'argent de côté. J'avais 10 000 $ dans mon REER mm-hmm. et moi, j'ai arrêté la chute. Il me restait 2 800.
Aïe.
Ça, c'est la réalité indicielle qu'on ne vit pas souvent, mais qu'on va revivre. Alors, évidemment, mes clients ne voulaient pas des placements comme ça. Ils me disaient, qu'est-ce que je peux faire pour limiter les pertes? L'objectif, c'est pas, peux-tu battre les indices? L'objectif, c'est, moi, étant donné qu'il y a comme une crise économique qui se fait, je vais avoir besoin de mon argent pour payer mes assurances auto et certainement aussi faire l'épicerie maintenant que j'ai une jeune famille et puis changer ma toiture l'année prochaine. Alors, t'as une réalité de multimillionnaires ou même milliardaires qui n'ont pas besoin de capitaux et qu'une perte d'1 milliard sur papier leur dérange pas. Mais monsieur, madame, tout le monde, non, ils vont financer une vie un petit peu plus terre à terre. Alors, battre un indice, ça fait longtemps que pour moi, ce n'est pas de quoi se péter les bretelles parce qu'on peut battre l'indice une année, mais l'année d'après, on le bat avec moins 10 et il n'y a pas de quoi être fier, là.
C'est intéressant ce que tu avances là, Fabien, en termes de croissance à long terme du portefeuille tantôt quand on parlait justement de l'intérêt composé. Moi, j'ai choisi d'appeler ce balado-là « Intérêt composé » justement parce que je trouve que c'est une magie absolument fantastique que peu de gens réussissent à bien se concevoir. Mentalement, c'est difficile, tu sais, la notion exponentielle. Alors, selon toi, quel rendement annuel on devrait peut-être espérer pour que à long terme, l'intérêt composé puisse faire quand même du travail? Est-ce qu'on parle d'un 3%, plus d'un 5% réalistement, là?
Réalistement, je pense que si on fait 3-4% par-dessus l'inflation, définitivement, on s'enrichit. Mais l'inflation, faut pas l'oublier, puisque si j'achète, par exemple, une table 1000 $ aujourd'hui, l'année prochaine, je vais acheter la même, j'ai besoin de 30 piastres de plus. C'est ça l'effet de l'inflation qui va éroder notre pouvoir d'achat. Il faut minimum faire le rendement de l'inflation. C'est pour ça que les placements très sécuritaires du type CPG ou de type épargne-placement Québec, ça ne rejoint pas l'inflation. On est un peu condamné à s'intéresser aux actions, aux FNB ou aux actions individuelles. Les actions individuelles, lorsqu'on a un portefeuille, je sais pas, de 10, 15, 20 titres de grande qualité, on peut les acheter, les conserver, puis il va y avoir aussi un effet multiplicateur formidable. Juste les services financiers au Canada, ça bat le TSX, mais à plate couture. Là, on peut parler de 13, 14 % par année là, sur le long terme, sur 30 ans. Là.
Wow.
Puis ça, c'est relativement facile. Il y a quand même des belles performances qui se fait. Si vous avez une inflation de 2, 3 % puis vous avez un dividende de 2-3 %
Ah, le reste, ça y est, salut.
Exactement. Là, on a un surplus. Là, je peux apporter certaines précisions à ce que tu mentionnais, des experts qui ne battent pas les fonds indiciels. C'est peut-être pas une cible, mais quand même, il faut regarder, creuser un petit peu. Au fil des ans, j'ai appris à départager deux types de fonds d'investissement. Il y a les fonds gérés activement. Et les faux fonds indiciels qu'on retrouve très souvent en succursale bancaire. En succursale bancaire, on va regarder le portefeuille, il n'y a pas d'humain. C'est écrit équipe de gestion Desjardins, équipe de gestion Banque nationale, peu importe. Là. Alors là, c'est une équipe dont le mandat est de suivre à peu près l'indice et on regarde le contenu, c'est quelque chose comme 80-90% similaire à l'indice. Ça, c'est ce qu'on appelle un faux fonds indiciel et on ne devrait pas payer pour ça.
Mais c'est-à-dire que c'est géré de façon passive, mais on le vend comme étant un fonds actif.
Oui, c'est ça. C'est géré passif et puis le gestionnaire qui veut garder son emploi, il va répliquer le contenu de gros indices en ne déplaçant pas trop les meubles dans la maison. Mais si vous regardez aujourd'hui ce qu'on appelle la part active d'un portefeuille, c'est comment il est différent d'un indice. Et c'est là qu'on va voir aussi son rendement sera différent. Ouais. Je pense à un gestionnaire chez Fidélité qui s'appelle Mark Schmel. Lui, il bat l'indice TSX depuis maintenant 15 ans. Wow. Il le bat de 7 % par année.
Aïe, aïe, aïe. C'est énorme. Mais en termes de frais de gestion, est-ce qu'il va rechercher cet argent-là dans la poche des investisseurs?
Ce que je viens de te dire, c'est net de frais.
C'est net de frais. Hey, oh, oh.
Oui, oui.
C'est intéressant.
Noah Blackstein aux États-Unis qui surclasse le SP500 après année. Ça fait maintenant 25 ans qu'il surclasse le SP500. On peut parler d'entre 7 et 10 % par année. Il est vraiment très, très solide, ce gestionnaire. Il y en a quelques-uns comme ça, mais il faut absolument qu'il y ait une part active. On va regarder le contenu, c'est différent. Et puis, aujourd'hui, moi, je vais utiliser les deux types, gestion active et passive. Ça se marie très, très bien. Et par exemple, vous avez des catégories à l'intérieur du portefeuille où est-ce que répliquer un indice, surtout les indices de marché émergents, ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais la cohabitation, elle se fait vraiment très bien dans un portefeuille de marier les deux.
Fait que pour quelqu'un qui veut investir sur le long terme, investir dans un FNB indiciel, ça peut être une bonne solution, mais se garder quand même une part d'investissement actif, ça pourrait être à privilégier aussi.
Oui, moi, ce que je privilégie surtout, c'est l'investissement factoriel, parce que je considère que les indices aujourd'hui sont un peu débalancés, de savoir justement qu'un secteur peut augmenter jusqu'à 27-30%, comme je mentionnais avec les technologies de l'information.
Ouais, ben oui.
Ça me rappelle vaguement en 2000 où Nortel occupait plus de 35% de l'indice TSX au Canada. Des milliards envolés en fumée.
Hey,
l'entreprise avait la capitalisation boursière de 400 milliards et elle est tombée à zéro. Et puis, ça se retrouvait dans une majorité de portefeuilles. Quand on voit des bulles se créer, c'est-à-dire à l'intérieur d'un indice, il peut y avoir un secteur qui est surreprésenté. On peut avoir un indiciel à ce moment-là qui applique des facteurs. Il va limiter, avoir par exemple une exposition à 5 % maximum d'un secteur.
Okay.
Et on peut aussi être équipondéré, c'est-à-dire tous les titres, ça représente le même pourcentage et quand il y a un écart, ça se corrige tout de suite. Vous pouvez exclure les compagnies qui ne sont pas rentables, exclure les compagnies qui n'ont pas de croissance du dividende, avoir des facteurs de valeur à l'intérieur pour limiter les risques d'un indice. Ça, c'est tout simplement pour les mauvais jours ou les crises, parce que des crises, ça survient tout le temps, Gabriel.
Voilà.
Je t'ai parlé tantôt de 2000, mais il ne faut pas passer sous silence 2008.
Ah non.
À ce moment-là, ouais, un investisseur qui avait acheté son FNB indiciel du SP500 en 2007. Le marché a corrigé momentanément jusqu'à moins 54 %.
Aïe, aïe, aïe.
Et ça ne cessait de s'enfoncer. Rendu au mois de mars en 2009, ça a remonté. Mais pour retrouver la valeur de son argent, il a fallu attendre 6 ans.
C'est 6 longues années là, dans un portefeuille puis dans une vie. Là.
Oui, puis pendant ce temps-là, c'était une crise économique. Le chômage augmente, l'argent se fait rare, les taux d'intérêt sont quand même un peu élevés et puis bien sûr, tout le monde essaie de s'en sortir puis on regarde son portefeuille en disant « ben je vais aller chercher mes REER, mais ils sont à moins 50 %. »
Mais dans ce cas-là, Fabien, justement, là, autre, l'investissement, tu sais, on se disait d'en conserver peut-être de côté, quel montant il faudrait se garder comme coussin dans l'éventualité d'une tempête boursière ou peut-être juste pour faire face à un imprévu de la vie?
Oui. À ce moment-là, un fonds d'urgence, là, c'est quelque chose comme 3 à 6 mois de dépenses de côté. Si ça me coûte 3 000 $ par mois pour vivre, d'avoir l'équivalent de 9 000 ou même 18 000 en liquide dans un compte qu'on appelle à haut rendement, mais le rendement n'est pas très élevé. Là.
Ouais.
Ça, c'est de la liquidité qui peut servir en cas de mauvais tour de la vie, si on perd un emploi ou si on a une blessure, on n'est pas assuré ou la voiture brise, quelque chose comme ça. Eh bien, ça permet de se revirer de bord. Maintenant, il ne faut pas prendre ces montants-là puis les jouer à la bourse. Si ça arrive et tu as une correction comme il est arrivé en janvier 2022, évidemment, notre fonds d'urgence, il va fondre.
Ouais.
C'est pour les surplus qu'on doit faire des investissements et les séparer par court, moyen, long terme. Le court terme, très peu de volatilité de risque, donc on doit avoir le plus de revenus fixes possible ou de titres sécuritaires. Le moyen terme, on peut tolérer une forme de volatilité. Puis là, nos attentes sont un peu plus élevées, mais faut pas s'attendre à des coups de circuit non plus parce qu'on peut avoir la moitié qui n'est pas investie en actions. Et pour le très long terme, les sommes pour la retraite, si vous avez déjà fait votre mise de fonds sur la maison et tout ça, vous remplissez à nouveau votre REER. Là, vous pouvez vous permettre d'être un petit peu plus audacieux dans le portefeuille puis d'avoir plus d'actions, mais il faut séparer ça en tiroirs. Alors
ouais.
Moi, c'est ce que je recommande. J'ai appelé ça ma théorie des 3 tiroirs. On a 3 tiroirs pour nos capitaux. Le court terme, le moyen terme avec des projets. Là, et puis le troisième, c'est pour le très long terme, pour la retraite.
Là, les garçons vont se reconnaître, là, mais les fameux trois tiroirs de comme bas, bobette, pantalon, on a tout ce qu'il faut là, avec ça.
Exactement.
Fabien Major, conseiller en placement, j'ai envie de t'amener un peu dans la pensée d'un jeune adulte, okay, qui commence sur le marché du travail, ça a quoi? Ça a 18, 19, 20 ans, qui veut commencer à investir, OK, et qui veut absolument maximiser son investissement, par exemple sur les marchés boursiers, pour espérer un jour atteindre une certaine forme d'indépendance financière, OK? À partir du moment où on reçoit notre premier chèque de paye, qu'est-ce qu'on fait avec? On met ça dans un CELI, dans un REER, puis dans quoi on investit?
Premièrement, on regarde si on n'a pas des dettes ailleurs. S'il y a des dettes sur la carte de crédit, ben le taux d'intérêt sur la carte, il est incroyablement élevé. Là. C'est genre 20 %. Alors, là là. Qui paie ses dettes s'enrichit? On commence par ça. Et puis, bien sûr, ça se fait si et seulement si les impôts sont payés. Il y a des gens qui commencent dans la vie leur première paye, il n'y a pas beaucoup d'impôts, mais s'il y a de quoi avec des bonifications, avec de la vente, il peut y avoir même des montants en impôts à la fin de l'année.
Ouais, additionnel.
Dans la compte provisionnelle. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut regarder ses dettes et l'impôt en premier avant de faire des investissements. Vous montez par la suite le fonds d'urgence et seulement si le fonds d'urgence contient ces trois mois de réserve, là, vous commencez ensuite à faire des investissements. Mais je commence par le CELI, moi.
Okay.
Pourquoi? Parce que le CELI peut basculer, on peut le transformer en REER plus tard. Si on a estimé qu'on fait plus de 40, 45 000, là, le REER commence à être intéressant. Mais il y a des gens qui peuvent financer leur retraite avec le CELI seulement. Puis hey. C'est quand même des bons montants. Maintenant, on pourrait mettre 81 500 en date ouais. d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de CELI, qui était majeur en 2009.
En le plafonnant, là, disons-le.
Ben, c'est ça, en le remplissant au complet, là, ça fait 81 500, c'est ce qui est possible de remplir dans un CELI. Et on a un nouveau droit de 6 000 par année et là, il vient de s'en créer un nouveau.
Et bon, OK, parlons de FNB, ben, indiciel ou peu importe, sectoriel, peu importe. Si tu veux vraiment une croissance à long terme, est-ce qu'il y a certains FNB, Fabien Major, que toi, tu gardes dans ta petite poche, que tu dis ça, là, je le recommande fortement, là?
Ben oui, les FNB factoriels que je mentionnais tantôt qui vont couper une forme de volatilité ou qui vont cibler les entreprises de qualité. C'est sûr, c'est très intéressant. Puis on a là-dedans des filtres qui vont exclure certains titres qui n'ont pas ben de bon sens dans n'importe quel portefeuille. Parce que l'indice, c'est qu'on achète tout le marché, y compris ouais. le bois mort. S'il y a ouais. des compagnies qui, je ne sais pas, font…
Tire de la patte, là.
Pardon?
Des compagnies qui tirent de la patte, finalement, qui traînent un peu.
Une entreprise qui tire la patte dans son secteur et puis qui est en train de se faire dépasser par tout le monde, c'est une vieille technologie. Cette entreprise-là est en train de dépérir. On aimerait la sortir, mais si on achète tout l'indice, on l'a pareil, ouais. le bois mort. Mais quand on a des filtres, on l'exclut. Alors, vous surveillez ça, des FNB factoriels.
As-tu des exemples précis à nous donner, des symboles boursiers qui te viennent en tête?
Malheureusement, non. Ça, pour un conseiller, on ne peut pas aller aussi précis que ça okay. pour faire des recommandations. Ça doit se faire individuellement avec les clients. Là. C'est pour ça que tu n'entends pas de titre très précis. Mais de toute façon, les factoriels, ils sont pas mal tous semblables. On a mentionné tantôt des marques comme FNB, CI First Asset, vous avez… iShare avec BlackRock, oui. Vanguard, mais surveillez aussi les investissements avec des options couvertes. Les options couvertes permettent de doubler le rendement du dividende et de protéger le portefeuille contre les baisses. Alors, quand on a un portefeuille qui, au lieu de rapporter un minimum de 3 % rapporte 7, c'est pas mal intéressant. Là.
quand même, on va okay. se le dire.
Ça, je trouve ça très bon. Vous avez maintenant des portefeuilles tout en un par Morningstar qui vont donc créer des portefeuilles et on peut les acheter et le rééquilibrage se fait selon son niveau de risque. Dans les secteurs, ce qui est le plus payant à long terme, c'est les les FNB de fonds de placement immobilier. Ils détiennent des fiducies de placement immobilière. Et là, sur le long terme, c'est sûr que c'est très, très, très intéressant.
Ben oui, absolument.
Là, si tu regardes un des secteurs, là, les fonds de placement immobilier ont des rendements supérieurs au S&P 500 depuis 20 ans parce qu'il y a tout le temps des revenus récurrents. Mais quand je parle de fiducie immobilière, c'est pas nécessairement des tours à bureau. Là. Tu as des sites qui hébergent des antennes cellulaires, des entrepôts réfrigérés, des hubs de transport pour la livraison de marchandises. Vous avez des parcs industriels pour toutes sortes d'industries et même d'immenses immeubles qui abritent des serveurs informatiques pour des compagnies, que ce soit Amazon, Google et autres.
Il y a une belle variété là, inclus là-dedans. Là.
Ouais. Alors, ça, c'est à regarder vraiment. Je suggère aux gens de jeter un coup d'œil. Il y a des revenus très stables là-dedans. Il y a des groupes internationaux, dont européens, qui ont, par exemple, des fiducies de revenus, des portefeuilles de revenus immobiliers qui contiennent que des revenus de locataires. Des fois, c'est 25 000 portes qui se retrouvent dans un portefeuille. Puis ce sont des revenus récurrents et puis qui sont drôlement intéressants. Un des derniers que j'ai vu d'une banque suisse avait des rendements positifs depuis 15 ans. Jamais de rendement négatif.
Aïe. Puis ça, si on compare au marché mondial, c'est rare que ça arrive un rendement soutenu de façon positive comme ça, là, sur le long terme, ça arrive presque jamais, là.
Oui, c'est pour ça que je mentionnais tantôt que se comparer au marché, aux indices, c'est sûr, c'est le fun, c'est sexy, mais c'est pas le vrai challenge. Le vrai challenge, c'est la vraie vie. Essayer de ne pas avoir du tout de rendement négatif puis faire mieux que l'inflation. Ça, c'est un souhait d'une majorité de familles comme objectif très précis, personnel.
Dernière chose sur laquelle j'aimerais t'entendre, Fabien Major, puis avoir ton avis surtout, ce sont les fameux fonds de travailleurs, les fonds de solidarité, les FTQ, les CSN. Est-ce que tu qualifies ces fonds-là pour quelqu'un? Reprenons l'exemple là, d'une jeune personne voulant économiser investir pour le long terme, là, pour la retraite éventuelle. Est-ce que c'est avantageux ou, comme on entend souvent les gens dire « Ouais, ça c'est avantageux, mais juste si t'es à 5 ans de la retraite. » Quelle est ton opinion sur ces fameux fonds de travailleurs?
Ben pour les jeunes qui veulent se constituer un RAP pour le régime accès à la propriété, ils ont intérêt vraiment de contribuer là-dedans puisqu'ils vont avoir un retour d'impôt beaucoup plus intéressant que la normale, que n'importe quel autre REER. Ils vont pouvoir le ressortir et puis, bien sûr, ça se fait sans impôt. Ils s'empruntent de l'argent à eux. Le crédit d'impôt fait que le rendement est bien supérieur à n'importe quel autre produit, mais c'est plafonné, les dépôts, c'est maximum 5 000 $.
Voilà.
Vous ne pouvez pas faire 5 000 dans un, 5 000 dans l'autre parce que le crédit supplémentaire ne sera applicable qu'à un seul des deux dépôts, là. Alors, ne faites pas cette erreur-là. Et puis, CSN, FTQ, les rendements sont bons les deux. Ils ont touché plein de secteurs. Ça va bien, mais comme véhicule de retraite, je crois qu'il y a mieux que ça. Et puis, bien sûr, lorsqu'on est près de la retraite, à 5 ans de la retraite, c'est aussi intéressant à ce moment-là. Donc, les jeunes, pour se constituer, la mise de fonds pour la maison, c'est drôlement intéressant. Ensuite de ça, à l'approche de la retraite. Mais entre les deux, si vous voulez contribuer encore au fonds FTQ ou au CSN, ce n'est que 5 000 $. Quelqu'un qui a un budget de 20 000 dans son REER.
Ben exact.
Je prends 5 000 là, puis je prends 15 000 ailleurs. La combinaison est intéressante. Mais là, on est dans la gestion active avec FTQ, CSN. Et puis, c'est une approche un peu passive puisqu'on ne peut pas sortir l'argent de là à moins d'être retraité ou d'accéder à la propriété ou une situation d'urgence familiale qu'on est en mesure de démontrer, comme par exemple quelqu'un qui est sur le point de décéder, quelque chose comme ça. Mais c'est pas possible de sortir l'argent. Et il y a une catégorie d'investissement qui se trouve dans ces fonds de travailleurs qui est très intéressante, que tu vas entendre parler de plus en plus dans le futur, ce sont les placements privés. Des entreprises qui ne sont pas publiques, mais dont on peut acheter des actions via un fonds. Alors, les titres privés sont drôlement intéressants parce que c'est avant souvent qu'une entreprise devienne très, très, très intéressante.
Cotée en bourse, là.
Avant qu'elle soit cotée en bourse. Alors là, on est dans le marché primaire. Ce qu'on mentionnait tantôt, est-ce qu'on participe à l'assainissement des finances d'une entreprise ou à ses investissements pour ouvrir de nouvelles usines, etc., ou l'expansion? Non, mais dans le placement privé, oui, puisque là, on est dans l'investissement primaire. En bourse, c'est secondaire, ce qui fait que les capitaux ont déjà été ramassés.
Aha.
Oui. Si on prend les fonds CSN, FTQ, là, c'est quand même dans les 2-3 % les frais de gestion.
Et quand même.
Dans le summum. Oui, oui, oui. Mais le rendement qui est publié est un rendement net. Mais il faut comprendre que de temps en temps, ils font de véritables coups de circuit. Je pense, par exemple, à Lyon Électrique qui ont été financés par ces fonds de travailleurs bien avant l'entrée en bourse de Lyon. Et puis, ça, c'est une démonstration de la force des capitaux privés.
Fabien Major, merci énormément pour cette discussion infiniment passionnante. Puis si jamais on veut des conseils sur l'investissement, sur la planification, j'imagine qu'on consulte ton site web?
Oui, baladoleplanif.com. Il y a maintenant près de 80 épisodes déjà enregistrés qui touchent à tout. Et puis définitivement, plus vous en savez, plus vous avez de chances de devenir un meilleur investisseur.
Et aussi, tu as d'autres projets là, en parallèle comme ça, dont entre autres deux livres que tu devrais lancer au cours du mois de février, là.
Oui, oui, il y a deux livres qui seront sur les tablettes des libraires très bientôt. Petites histoires de gros dollars, c'est justement apprendre les origines de notre économie, du monde financier, des FNB. Ils sont là. Il y a aussi le crédit, comment ça marche, les taux d'intérêt, l'inflation. D'où ça vient ces concepts-là et pourquoi on a de l'argent dans nos poches? Ça va aussi loin que ça. Et l'autre, c'est pour ceux qui en ont fait, c'est qu'allez-vous faire de tout cet argent?
Non.
Ceux qui ont vendu de l'immobilier, qui ont vendu une compagnie, qui ont reçu un héritage. Qu'est-ce qu'on fait quand les millions de dollars nous pleuvent sur la tête.
Non, mais c'est un beau problème, mais c'est bon d'y réfléchir quand même.
Oui, oui, oui. Et puis, on trouve les solutions justement dans ce livre-là qui va paraître d'un jour à l'autre. Qu'allez-vous faire de tout cet argent?
Des discussions fort intéressantes et assurément, ça va se retrouver sur la table de chevet de bien des Québécois, ces livres-là. Fabien Major, un immense merci. Puis peut-être à une prochaine?
Oui, peut-être. Merci, Gabriel.
Maîtriser l'investissement autonome en bourse avec Gabriel Jasmin et le balado
Intérêt composé sur Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts et Google Podcasts.
Vous cherchez à donner une sonorité unique et professionnelle à votre podcast?
La boîte de prod est là pour ça.
Off the record,
les secrets de la radio.
Production d'habillage visuel et sonore.
Location de studio.
Partage sur les différentes plateformes.
Diffusion en direct.
Démarquez-vous des autres balados
grâce à la boîte de prod.